Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé Publique France.
D'après Santé Publique France, près de 6200 personnes ont découvert leur séropositivité en France en 2018, soit une baisse de 7% par rapport à 2017. Plus de la moitié, c'est-à-dire 56% des découvertes de séropositivité en 2018 concernent des personnes nées à l'étranger, dont les deux tiers dans un pays d'Afrique subsaharienne. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, il est nécessaire de rappeler les mesures de prévention et de protection. C'est ce que nous allons faire avec nos invités sur le plateau d'Africa Radio. Christina Rosati, vous représentez le comité des familles. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Africa Radio. Avec nous également Romain Biribindi de l'association Afrique Avenir et Aminata Sinon de l'association Ikambere. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Alors le 1er décembre prochain, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, l'occasion de faire un point sur la situation. Alors, qu'en est-il en 2019? Où en est-on? Qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer? Qui veut se lancer? Peut-être vous, Christina?
Oui, parce que... Alors, merci déjà beaucoup pour votre invitation. Je voudrais déjà rebondir parce que vous avez donné les dernières données de Santé publique France. Ouais. Ils nous rendent tous heureux parce qu'il y a eu cette baisse. Mais il faut quand même rappeler que le nombre de découvertes de séropositivité restait stable chez les femmes hétérosexuelles qui sont nées à l'étranger et a augmenté chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes nés à l'étranger. Du coup, c'est vraiment cette partie-là qui nous pèse beaucoup, à nous tous, les associations ici présentes et aux autres, parce qu'on sait bien qu'est-ce qui se passe au niveau du gouvernement par rapport aux migrants. Oui. Et nous, comme association, on subit immédiatement les conséquences. On voit les situations de plus en plus difficiles. Oui. On ne peut pas penser de changer la loi immigration et pas avoir des conséquences par rapport aux personnes qui viennent en France pour se faire soigner.
Alors, lorsque l'on dit que près de 6200 personnes ont découvert leur séropositivité en France en 2018, c'est la raison pour laquelle on a tenu ce matin à recevoir des associations, des personnes qui sont actives sur le terrain. Alors justement, l'apport de ces associations, qu'en est-il? Un mot peut-être, Romain Biribindi, parlez-nous un petit peu de l'apport des associations dans cette lutte contre le VIH.
L'apport des associations est très, très, très important puisque ce sont elles qui sont au plus près du public qui est concerné par ce problème du VIH-SIDA. Mais en dehors de cette nouvelle qu'on a apprise hier lors de la journée qui a été organisée par Santé publique France, on voit bien qu'il y a des efforts qui sont faits pour essayer de limiter la transmission du VIH. Tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'on a tous les outils.
Oui.
Tous les outils pour le moment qui sont disponibles pour tout le monde, y compris pour les migrants, malgré les difficultés qui viennent d'être annoncées ici au sujet de la politique d'immigration ici en France.
Ouais.
Mais nous avons les dépistages, nous avons les préservatifs, nous avons la PrEP, nous avons les médicaments qui permettent aux personnes vivant avec le VIH de vivre plus longtemps et de ne plus transmettre le virus. Donc tous ces outils sont disponibles pour nous en ce qui concerne ils sont disponibles ici en France malgré toutes les difficultés que nous avons en termes de problèmes administratifs que connaissent les étrangers ici en France.
Oui. Alors peut-être un mot à Aminata Sinon.
C'est vrai que les chiffres sont très encourageants et nous, les associations, nous avons encore beaucoup de travail à faire.
Ouais.
Et aussi que les migrants puissent comprendre que se faire dépister, c'est la meilleure des choses. Et si la personne est positive, elle sera prise en charge rapidement et ça permettra de limiter la chaîne de contamination.
Alors, oui, vous avez fini? Alors, parmi les découvertes de séropositivité en France, près d'un tiers concernent des personnes nées en Afrique subsaharienne. Comment on l'explique?
C'est de deux façons. On a deux explications. Il y a une explication ancienne qui consistait à dire que les gens viennent des pays à forte endémie.
Oui.
Ce qui est vrai. Mais aussi, l'enquête parcours vient de nous montrer que 40% des contaminations se font ici sur le territoire français.
Oui.
Donc, c'est comme ça que les choses-là s'expliquent.
Bah, c'est aussi vrai qu'on peut dire que le VIH, c'est tout à fait un virus raciste. homophobes, parce que, bien sûr, les personnes qui arrivent en France avec une situation de précarité, vivent dans des conditions d'insalubrité, ils sont sûrement plus exposés au virus.
Oui.
Et du coup, c'est évident que c'est la population qui est la plus touchée. C'est cette population qu'on reçoit surtout au comité des familles. Ce sont des personnes qui sont complètement isolées. On les connaît surtout dans la première année où ils sont en France. Ils n'ont pas les droits de travailler, ils n'ont pas les papiers, ils ont des problèmes plus urgent pour eux, c'est-à-dire les logements, même
trouver un emploi, trouver à manger.
Tout à fait. Et la santé, ça vient beaucoup après. Et c'est ça que nous, on essaie de travailler beaucoup sur ça. Quand on reçoit cette personne, on essaie de les faire entrer dans un programme d'éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire bien vivre avec la maladie, prendre bien ses médicaments. Parce qu'une chose qu'on ne répète pas suffisamment, c'est qu'une personne qui est sous traitement à une charge virale indétectable, c'est-à-dire qu'il ne transmet pas les virus par rapport sexuel. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui devrait, si c'était vraiment répondu et dit dans toutes les situations, ça devrait vraiment baisser la stigmatisation des personnes séropositives, qu'elle est toujours très, très haute.
Alors, au téléphone de la radio africaine, c'est un auditeur qui nous rejoint. Vous pouvez vous munir de vos cas, c'est bon, c'est bon. Tout le monde est équipé. Bonjour, qui est là?
Jomo de Bengue.
Bonjour Jomo.
Oui, bonjour.
Allez-y.
Moi, j'aimerais commencer cette émission en disant merci déjà à toutes ces associations qui sont corps et âme à sauver ou à propager la bonne nouvelle qu'est la lutte contre le sida. Mais je vais juste apporter une petite précision.
Allez-y.
Parce que nous avons dit que tous viennent où la plupart des pays subsahariens. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens se sont focalisés sur une seule chose. Quand on vient de l'Afrique subsaharienne, on va vers une association qui s'occupe bien sûr des Africains subsahariens, d'accord. Mais ça va au-delà de ça. Et me parlant de précarité, ça, je suis pas trop d'accord pour la précarité. Non, parce que on nous a toujours dit que le sida s'octroie ou s'attrape pas que des rapports sexuels, même la salive elle donne pas le sida. Alors je sais pas.
Alors, pourtant les chiffres, pourtant les chiffres sont là. Hein, plus de la moitié des découvertes concernent des personnes qui sont nées à l'étranger, dont les deux tiers dans un pays d'Afrique subsaharienne. Qui veut répondre à Jomo sur le plateau?
Ou peut-être Jomo, il n'a pas pris en compte de ce que nous appelons la vulnérabilité.
Oui.
La vulnérabilité, la plupart par exemple les femmes qui sont contaminées. Par le VIH, l'ont été contaminés puisqu'ils sont dans des conditions précaires. Ça a été démontré par l'étude Parcours. Et pour revenir à ce que Christine disait tout à l'heure, il faut pour un ressortissant d'Afrique subsaharienne, pour qu'il s'installe ici en France, il lui faut 7 ans. Donc pendant 7 ans, c'est la galère.
Le temps, en fait, de trouver un logement,
Et l'emploi, tout ça, il lui faut 7 ans, en moyenne.
Donc c'est 7 ans de vulnérabilité. Oui, allez-y Aminata.
Alors je voulais compléter en disant à notre auditeur que nous recevons à l'association Ikambere des femmes, 90% viennent de l'Afrique subsaharienne. Et ces femmes, la plupart d'entre elles aujourd'hui vous disent que avant d'arriver, j'avais déjà fait mon test, je n'avais rien.
Ouais.
Donc elles ont été contaminées soit par leur parcours migratoire qu'on connaît aujourd'hui, ou soit sur place à l'arrivée.
Ouais.
Parce qu'à l'arrivée, il y a beaucoup qui sont allés chez Médecins du Monde ou à la Croix-Rouge, qui ont fait des tests et qui n'étaient pas séropositives.
Ouais.
Mais c'est leur condition de vie après.
Les
premières années de leur vie où elles sont obligées d'échanger un logement contre des rapports sexuels non protégés, parfois forcés, parfois des violences sexuelles qui font que, à la fin, elles se retrouvent séropositives.
Allô?
Oui, Jomo, allez-y.
Oui, moi je dirais là un tout petit peu, je ne vais pas faire des polémiques, mais je me demande bien. Ces femmes sont arrivées à moins de 5 ans et le sida se révèle à partir de quel moment? Parce que nous avons appris que ça prend d'abord du temps avant de se relever le sida. J'arrive, je termine. Du coup, si elles sont arrivées il y a moins de 5 ans, c'est qu'elle avait, elle avait attrapé le sida depuis le...
Jomon, on a compris la question. Allez-y, vous pouvez lui répondre.
Je vais juste rebondir. Déjà, on n'attrape pas les sida. On peut être infecté par le VIH, surtout pas avec la salive, bien sûr qu'avec des relations sexuelles non protégées quand la personne n'est pas sous traitement. Et les sida, ça se déclenche beaucoup plus tard. Mais un des données, maintenant, je n'ai pas les chiffres exacts, mais un des choses sur lesquelles il faut travailler, c'est justement, il y a un délai encore trop important entre l'infection à VIH et la découverte.
Oui, la maladie.
Environ, je dirais que c'est 3 ans, j'ai dit un chiffre comme ça, mais bon, je ne veux pas me lancer dans ça, mais c'est encore trop tardive les découvertes. Il y a encore des cas, des personnes qui sont découvertes au stade sida.
Oui.
Et ça, ce n'est pas possible en 2019.
Avec tous les outils dont on dispose. Alors, justement, au téléphone de la radio africaine, il y a une autre personne qui nous rejoint. Bonjour.
Allô.
Bonjour, allez-y rapidement, on vous écoute.
Oui, bonjour, c'est Dr. Marcus, bonjour.
Allez-y, allez-y, vite, vite.
Oui, mais en fin de compte, le sida, bon, j'ai l'impression que d'ailleurs c'est un business, hein. Et puis, comme je viens de dire, donc, est-ce que c'est la pauvreté qui fait que quelqu'un puisse être porteur de germes, surtout venant de l'Afrique.
Merci pour la question. Alors justement, on a eu une petite note de France Alert de l'association Vers Paris sans SIDA qui dit le nombre de personnes nouvellement diagnostiquées avec une infection à VIH baisse en France. L'Île-de-France et les départements anti-Guyane sont les régions où l'épidémie est beaucoup plus élevée que dans le reste du pays. Il faut noter que la Seine-Saint-Denis par exemple est très touchée par l'épidémie et ce sont beaucoup de personnes qui viennent de ce département dont on découvre la séropositivité. Qui veut réagir sur ça?
Moi, je vais réagir en disant que la Seine-Saint-Denis est un département qui reçoit le plus de personnes en situation de précarité. Ouais. La pauvreté est très, très élevée dans ce département. Et c'est vrai qu'il y a des prises en charge, il y a des associations comme Icambéré. Nous sommes là sur le territoire. Nous proposons le test. À Saint-Denis, nous proposons 3 fois par mois le test de dépistage rapide, gratuit, du VIH. Ouais. Et... il y a les structures hospitalières qui proposent également ce test de dépistage, mais en voyant la typologie de la population, on ne peut qu'avoir des personnes atteintes par le VIH qui sont plus, dont le nombre est plus élevé que les autres départements qui ne reçoivent pas ce type de population.
Oui. Qui veut rajouter quelque chose?
Peut-être on sait qu'on peut aussi ajouter, il y a cette notion de ce que nous appelons l'épidémie cachée.
Ouais.
Il y a à peu près 20 à 25 000 personnes ici en France qui sont séropositives et qui ne connaissent pas leur séropositivité. Donc ce sont ces personnes-là qu'il faut toucher, qu'il faut atteindre.
Ouais.
Et pour vous donner, souvent, c'est les données, quand nous les avons, nous permettent de nous orienter.
Ouais.
À un moment donné, on va dire que c'est simplement la Seine-Saint-Denis qui est touchée par le VIH, mais l'épidémie cachée, elle est presque similaire dans les Hauts-de-Seine, dans les 92.
Ouais.
Donc, ce qui nous permet aussi de commencer à cibler aussi toutes nos actions aussi dans les 92 pour essayer un peu de toucher, pour l'entendre de comment partout il y a cette épidémie cachée pour essayer de la traquer. Puisque sans ça, on ne pourra pas mettre la fin à la transmission du VIH d'ici 2030.
Christina Rosati,
oui, on disait du coup il y a des territoires qui sont plus touchés que d'autres. On connaît bien la situation de la Guyane. Par exemple, au comité des familles, on a un projet. Dans quelques mois, on ira pour une action des témoignages. C'est notre projet qu'on appelle le projet Madeleine. C'est celle du témoignage des personnes qui vivent avec les VIH,
oui,
qui témoignent à visage découvert. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve qu'il a un impact très fort parce que souvent, après nos actions de ce projet, les personnes, ils demandent
d'avoir un dépistage.
Du coup, ça peut se faire directement par TROD, que c'est un dépistage rapide,
ouais,
ou bien ça peut se faire en laboratoire. Maintenant, on a beaucoup, il y a les autotests, il y a beaucoup de possibilités. Mais voilà, un des choses du coup sur lesquelles je voulais insister, c'est aussi parler, parce que maintenant, on parle de vivre avec les VIH, c'est-à-dire il y a des années, on ne pouvait pas parler de cette manière.
Ouais.
Et déjà, ça devrait vraiment faire changer les mentalités, parce que je pense que c'est aussi dans la discrimination qu'il y a encore, ça contribue à ce manque de dépistage qui est fort.
Alors la mobilisation justement de ces associations dont vous faites partie, hein, tous les trois, et à Paris, l'association Afrique Avenir investit les rues du quartier de Château-Rouge dans le 18e arrondissement, où vit une importante diaspora africaine, avec deux bus, l'un devant le métro Château-Rouge et l'autre devant Marquet des Poissonniers. Et les habitants du quartier notamment peuvent venir effectuer un test de dépistage rapide, reportage dans le bus de Marquet des Poissonnières avec Nadir Djenad.
Ça fait combien de temps que vous avez fait votre test, le tout dernier? Il remonte à quand?
Ah, ça fait longtemps, je ne sais même pas combien de temps, mais ça fait longtemps.
Plus de 1 an?
Plus.
D'accord.
Dans le bus d'Afrique Avenir, Belinda, qui travaille pour l'association, reçoit Rose, congolaise âgée de 38 ans, venue faire un test de dépistage. Elle habite le quartier de Château-Rouge depuis 20 ans.
C'est un test rapide, avec résultat immédiat. Et je vais donc vous piquer sur le doigt pour prendre quelques gouttes de sang. Et par la suite, je vais vous remettre votre résultat. C'est notre test du VIH.
Les tests rapides permettent, avec un simple prélèvement par piqûre au doigt, d'obtenir un résultat dans un délai de 1 à 30 minutes. Après quelques minutes, le résultat tombe pour Rose.
Nous avons le résultat, madame. Déjà, je tenais à vous féliciter parce que merci. Tout va bien. Il est négatif, votre résultat.
Merci.
Félicitations.
Merci beaucoup. Ouais, ça me fait du bien.
Vous êtes soulagée?
Ouais, je suis soulagée, ça me fait du bien. Ouais, ça fait du bien, même si vous savez que en soi, je sais que je n'ai rien à me reprocher, ouais. Mais je ne sais pas du côté de mon conjoint là. C'est... Ouais.
Vous étiez confiante, hein. Ça se voyait, vous étiez confiante.
Oui, j'étais confiante, je suis soulagée, ça me fait du bien vraiment.
Ouais. Que se passe-t-il quand une personne apprend sa séropositivité après avoir fait le test dans un bus d'Afrique Avenir? Charles Guéwa Ali, responsable du stand Afrique Avenir et du bus près du métro Marquet des Poissonniers, nous en dit plus.
Et une personne qui est détectée séropositive ne laisse pas la personne partir dans les terres, dans la masse. Ouais. On prend la personne en charge, on l'oriente vers les centres qui peuvent le prendre en charge aussi, les hôpitaux, et on l'accompagne même pendant ce temps, et il bénéficie d'un accompagnement carrément organisé.
À partir de 17h GMT, c'est l'affluence dans ce stand de l'association Afrique Avenir. Les membres de l'association vont rester mobilisés jusqu'à tard dans la soirée pour effectuer des tests de dépistage et donner des informations.
Alors on voit bien, hein, toutes ces actions menées par les associations, dont Afrique Avenir. Donc alors, Romain Birimbindi, quelles sont les autres actions que vous menez pour lutter contre le VIH?
Pour le VIH, il y a la distribution de préservatifs masculins et féminins.
Oui.
Il y a le support d'information, puisque le support d'information, l'information est toujours un peu importante. Il y a toutes les actions aussi de communication que nous menons auprès de ce public. Mais ce qu'on a oublié aussi de dire, il n'y a pas que les habitants de Château-Rouge qui viennent, c'était marché. Il y a des gens qui viennent de Merlin, qui viennent d'un peu partout, qu'on va rencontrer dans tous ces lieux, dans ces lieux d'affluence. Alors, le dépistage, c'est vraiment un élément très, très important, et ce qu'on n'oubliera pas aujourd'hui, il faut qu'on sache, il faut le savoir, que nous, en tant que les étrangers, donc surtout les ressortissants d'Afrique subsaharienne, on a un retard au dépistage par rapport à d'autres populations.
Oui, c'est-à-dire qu'on a moins le réflexe d'aller se faire
dépister. Et que c'est très, alors que le dépistage, c'est le pivot de tout pour le moment.
Oui.
Puisque, comme disait Christine Aminata, quand on est séropositif, pour le moment, on ne va vivre plus longtemps et on ne va pas transmettre le VIH. Donc, c'est très, très, très important de se faire dépister et se dépister régulièrement. Alors, puisque là, ce qu'on a oublié aussi de dire là-dedans, dans ce trode, la plupart des gens ne viennent pas pour faire les dépistages. Donc, c'est puisqu'ils nous croisent qu'ils font le dépistage. Et beaucoup d'entre eux, donc à peu près 30%, ils n'ont jamais fait les tests de dépistage. Alors qu'il faut pour les ressortissants africains, c'est chaque année qu'il faut faire un dépistage. Et pour les personnes qui sont multipartenaires, c'est tous les 3 mois. C'est tous les 3 mois qu'ils doivent faire le test.
Alors, comment on réussit, Aminata, sinon à les convaincre que le dépistage est important, c'est la clé?
Nous faisons des maraudes. Ouais. C'est leur expliquer qu'aujourd'hui, il vaut mieux connaître sa sérologie VIH, si on est positive, on a une prise en charge rapide et la personne rentre dans le système médical et social mis en place par l'État pour les personnes vivant avec le VIH. Plutôt que de rester et arriver à l'hôpital au stade sida, où la prise en charge sera très compliquée, et également, ça permet de diminuer la chaîne de contamination. Donc nous leur expliquons que le dépistage, il est rapide, ça ne prend pas de temps, et également, ça les met à l'abri, en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, Romain l'a dit, Christina l'a dit, les personnes bien prises en charge avec une charge virale indétectable ne contaminent plus.
Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos tâches, Christina Orosati, au comité des familles ?
Ah, elles sont nombreuses, les tâches. On a moins de financement, on a plus de personnes qui arrivent et qui sont dans des situations complètement précaires. On a une loi immigration qui rend les situations encore plus difficiles. Mais on a, comme on disait avant, il y a aussi beaucoup d'avancées. Une expérimentation, vous en avez sûrement parlé à l'antenne, c'est celle prise vers Paris sans sida, que je trouve très importante. À Paris, à Nice, on peut aller se faire dépister gratuitement, sans ordonnance.
Dans les laboratoires.
Exactement, et ça a permis la baisse de découverte en Ile-de-France, à Paris intramuros.
Oui.
Et nous, au comité des familles, on travaille sur la lutte contre le VIH-Sida tous les jours, et notamment avec notre émission radio qui s'appelle Vivre avec le VIH, sachant qu'il y a des années, ça s'appelait Survivre au Sida. Du coup, la situation, elle est vraiment changée. Et cette émission, elle est diffusée sur 12 radios en France. Pour l'instant, on essaie d'avoir des antennes en Guyane, par exemple. Mais ça, pour vous dire qu'on essaie de rejoindre les territoires qui sont plus isolés. Il y a des zones de France, parce qu'à Paris, tout est beaucoup plus facile. Voilà, on peut se faire dépister chez les associations, en laboratoire. Mais quand on habite dans une petite village au centre de la France, au moins entendre à l'antenne un discours sur la santé sexuelle et la prévention, c'est très important, c'est une chose à laquelle on tient beaucoup.
Alors comment on pourrait améliorer les choses pour vous, les associations? Comment on pourrait faire en sorte d'améliorer un peu vos conditions de travail, Romain Birimindi?
C'est d'augmenter nos ressources financières et humaines, c'est ça. Sans ça, on ne pourra pas aller beaucoup, beaucoup plus loin.
Je sais que souvent, vous recherchez des bénévoles, souvent.
Oui, on cherche beaucoup de bénévoles, mais après, les bénévoles là aussi à ses limites.
Oui.
Et surtout que nous travaillons dans des conditions très, 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 très difficiles.
Oui.
Puisque quand vous voyez la façon dont nous travaillons, il y a d'abord l'installation des barnums, qui est faite par nous-mêmes. Il y a le véhicule qui doit être recherché au parking, remis au parking. Et tout ça, c'est beaucoup de travail. Comme disait Christina et Aminata, il y a des endroits où nous aimerions aller, mais nous ne pouvons pas y aller par manque de moyens.
Oui.
Par exemple, Melun, c'était l'endroit où il y a affluence de beaucoup de Noirs. Mais là, on ne peut pas y aller puisque, effectivement, on n'a pas beaucoup de ressources humaines pour aller là. Jusque-là, pour le moment, ça fait depuis une année que nous cherchons des financements pour la numérisation de la digitalisation de notre hôte. Mais jusque-là, on n'a toujours pas trouvé des financements pour ça. On n'a toujours pas trouvé des financements. Et nous autres, on sait que pour le moment, il nous faudra encore à peu près au moins 4 salariés en plus pour qu'on puisse travailler dans des conditions convenables. Il nous faut encore 4 salariés.
Alors, on va faire une petite conclusion. Il reste juste 3 minutes. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette émission? C'est important de rappeler aux auditeurs qui nous écoutent de ne pas hésiter à aller se faire dépister. Donc, Aminata, sinon, qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer aux auditeurs qui nous écoutent?
Juste qu'il faut tenir compte de nos situations actuelles, de la vulnérabilité des femmes atteintes par le VIH que nous recevons tous les jours et qu'elles doivent rester longtemps avant d'être régularisées, qui n'ont pas de logement et qui ne savent pas où manger. Et qu'aujourd'hui, nous avons pu regrouper la situation de ces femmes dans un livre qu'on peut trouver à Icambéré ou dans les librairies.
D'accord, comment il s'appelle ce livre?
Ça s'appelle Icambéré, la maison qui relève les femmes.
D'accord.
Elle a été écrite par Annabelle
Tigrine.
Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur Internet pour en savoir un peu plus sur l'ouvrage.
demander
où,
à Ikambéré.
Vous venez à l'association Ikambéré, c'est à Saint-Denis.
Ça permettra de comprendre la situation des femmes, les difficultés qu'elles ont pour se faire régulariser et tout ce qu'elles ont comme problème sur le territoire français.
Christina
avec le VIH.
Rosati du comité des familles, je vais vous laisser dire un dernier mot.
Oui, moi je tiens à dire que les droits des étrangers restent un laboratoire de restriction des libertés individuelles et l'État va les généraliser à toute la population. Du coup, restons éveillés par rapport à ça, faisons attention, pensons pas que c'est un problème d'autres personnes, c'est un problème qui nous concerne tous, aussi nous qui travaillons sous les VIH.
Romain Virimidi, une petite minute pour terminer, allez-y.
Oui, donc c'est toujours les dépistages, mais l'ambiance actuelle ne nous permet pas de travailler dans des conditions convenables, puisqu'il y a un bruit de fond qui n'est pas très encourageant. Quand on dit que vous avez suivi tout ce qu'on parle, comment on est en train de faire les restitutions sur l'aide médicale de l'État. Donc tout ça, ça a des répercussions négatives sur la lutte contre le VIH. Et dernièrement, j'étais à une conférence qui était organisée par un laboratoire. Et le représentant de l'OFIA présentait des chiffres, c'était vraiment décevant. De façon de voir maintenant comment il trie le papier, les cartes de séjour des personnes qui sont malades, c'est devenu très 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 difficile. Et tout ça, ça a des répercussions sur notre propre discours.
Les informations sur Internet, l'association Afrique à venir, un site Internet, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez aller aussi sur le site d'AIDS, www.aids.org, et le site de sidainfoservice.org, www.sidainfoservice.org. Il y a également l'association Ikambéré et le comité des familles. N'hésitez pas à aller sur Internet pour en savoir un petit peu plus. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite donc beaucoup de courage pour la suite de vos actions de terrain. Et on vous souhaite une bonne journée mondiale de lutte contre le sida. C'est le 1er décembre prochain, c'est
merci.
La pause sur Africa Radio. On retrouve juste après Ambiance Africa qui démarre. Ça arrive dans quelques minutes, bougez pas.